Amen. Bonjour bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour sa grâce qui nous donne le souffle de vie ce matin et qui nous permet d'être encore dans sa présence. J'aimerais, à la suite d'Éric, prier moi aussi le Seigneur. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te bénissons. Tu es notre Dieu et tu es notre roi. C'est toi qui gouverne tout, c'est toi qui nous fait la grâce d'être vivants ce matin en toi. Et nous voulons tout te confier, Seigneur. Nous voulons tout mettre entre tes mains. Tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu tout puissant, tu es le Dieu éternel. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Merci pour mes bien-aimés, merci pour ton Église, merci pour toutes les églises ce matin qui sont réunis pour t'adorer, pour te célébrer, car nous reconnaissons que Dieu existe, qu'il est vivant, et que, quelles que soient les situations que traverse l'humanité, son règne n'est pas en cause. Béni sois-tu pour ce temps. Comme l'a dit mon frère Eric, Seigneur, permets-nous ce matin d'être enrichis. Béni sois-tu. Amen. Voilà, si vous m'entendez, faites-moi juste un signe de la main, comme ça je sais que tout le monde m'entend très bien. Ce matin, j'aimerais méditer avec vous dans l'épître de Pierre. Pour les quelques dimanches avant la Pentecôte, peut-être que nous resterons dans cette épître, la deuxième épître de Pierre, pour nous édifier, pour nous fortifier, n'est-ce pas? Si nous pouvons lis dans le livre de 1 Pierre que dans cette première épître, l'apôtre Pierre s'adressait à des croyants qui vivaient la persécution. Dans cette deuxième épître, l'apôtre Pierre s'adresse à des chrétiens qu'il s'agit surtout de laisser en éveil, des chrétiens qui ont besoin de rester réveillés, des chrétiens qui ont besoin d'être avertis sur la tentation, sur le risque de se relâcher, de relâcher par rapport à leur foi, de relâcher par rapport à leur zèle. Hein? Parce qu'il y a plusieurs influences en ce moment-là qui sont manifestées dans cette période de l'Église, des influences délétères, des faux enseignants, des moqueries, des mêmes du genre, votre Dieu il dit qu'il vient, il ne vient pas. Si votre Dieu existe, pourquoi toutes ces choses? Et l'apôtre Pierre a écrit cette épître. Et on voit que cette épître, dans son premier dessin, qui est adressé à un peuple de Dieu dans un contexte particulier, c'est un dessein et c'est un contexte qui est universel. Parce que l'Église, au travers des siècles, a traversé toujours des périodes où des fois, le peuple de Dieu se trouve dans le risque de s'endormir, dans le risque de se relâcher, dans le risque de diminuer de zèle, dans le risque d'être sous l'influence du contexte ambiant, l'influence des faux docteurs, l'influence des philosophies qui ont plus la cote que la foi chrétienne. Et l'apôtre Pierre, inspiré par Dieu, laisse cette épître. Et quand on lit cette épître, on est entraîné dans un voyage pour revisiter où nous en sommes, nous, par rapport à notre confiance en Dieu. Et je peux vous dire que dans les périodes et qui sont là depuis quelques semaines, quelques mois, dans notre existence d'être humain, cette période est une période que nous traversons avec assez de méditation, assez de réflexion, parfois des remises en cause. Parfois, nous traversons aussi des périodes de doute. L'Église n'est plus là dans son activité habituelle. Nous ne sommes plus en action, nous ne sommes plus en activité. Est-ce que ça a un impact sur notre zèle pour Dieu? Est-ce que ça a un impact sur notre engagement? Quelqu'un disait, comment est-ce que l'Église va se comporter à la sortie de ce confinement? Comment est-ce que les chrétiens et les chrétiennes que nous sommes, nous allons réapprendre à servir Dieu? C'est une grande inconnue, n'est-ce pas? On prie tous que les choses soient dans le bon sens, tout en sachant que les choses ne seront plus comme avant, mais en espérant que les choses seront meilleures. Mais comment seront-ils meilleurs si nous ne faisons pas la réflexion pendant que nous sommes en train tout doucement de sortir de cette période difficile? Je vous invite à lire 2 Pierre chapitre 1 à partir du verset 1 jusqu'au verset, je dirais, jusqu'au verset 15. Je lis dans la version du semeur. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, salue ceux qui ont reçu le même privilège que nous, la foi. Ils la doivent à Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, car il est juste. Que la grâce et la paix vous soient données en abondance par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Il a voulu, par ces dons, vous rendre conformes à ce que Dieu est, vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère. À la force de caractère, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve. À l'endurance, l'attachement à Dieu. À cet attachement, l'affection fraternelle. Et à l'affection fraternelle, l'amour. Verset 8. Car si vous possédez ces qualités, et si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Car celui à qui elles font défaut est comme un aveugle. Il ne voit pas clair. Il a oublié qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. C'est pourquoi, frères, puisque Dieu vous a appelés et choisis, redoublez d'efforts pour éprouver dans toute leur force les effets de cet appel et de ce choix. Car si vous agissez ainsi, vous ne tomberez jamais. Ainsi, vous serez grand ouvert les portes du royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, verset 12, je ne cesserai de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez déjà et que vous soyez fermement attachés à la vérité qui vous a été présentée. Mais j'estime juste de vous tenir en éveil par mes rappels tant que je serai encore de ce monde. Car je sais que je vais bientôt quitter ce corps mortel, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a révélé. Cependant, je prendrai grand soin que même après mon départ, vous vous rappeliez toujours ces choses. Amen. Cette parole de Pierre sonne un peu comme un testament, n'est-ce pas? Comme un testament de l'apôtre qui laisse à ses disciples. Ce testament sonne comme un rappel. Et il le dit à la fin de ce texte. Je ne cesserai de vous le rappeler. Je ne cesserai de vous le rappeler. N'est-ce pas? Le message chrétien n'est pas fondé sur un mythe. Le message chrétien n'est pas fondé sur une invention humaine. La parole de Dieu, la Bible, n'est pas le fruit d'une réflexion d'un auteur tellement prolifique qui a écrit un roman, qui a écrit une œuvre littéraire, imaginaire. Non. Le message chrétien est un témoignage d'hommes et de femmes qui ont vécu au quotidien la manifestation de Dieu, à qui Dieu a laissé aussi cette tâche de nous mettre par écrit ce qu'il voulait, ce qu'il souhaite et ce qu'il attend des hommes. Les Écritures nous montrent la route jusqu'au retour de Jésus, n'est-ce pas? Et nous avons là la certitude qu'il reviendra. L'apôtre Pierre en parle, n'est-ce pas, dans cette épître. Dans les 4 premiers versets, nous avons une invitation à continuer de connaître Dieu et son message. L'apôtre Pierre dit, lui qui est serviteur de Dieu, il salue tous ceux qui ont le privilège, comme lui, le privilège d'avoir reçu la foi. C'est un privilège. C'est une grâce. Il dit, nous devons cette grâce à Jésus-Christ. C'est lui qui est notre Dieu et c'est lui qui est notre Sauveur. Parce qu'il est juste, ce Dieu-là. Et il demande à Dieu, dans cette évocation, que la grâce et la paix nous soient données en abondance. Par la connaissance de qui? Par la connaissance de Dieu et par la connaissance de Jésus, notre Sauveur. Non, il dit notre Seigneur. Hein? Il choisit bien ces mots. Par la connaissance de Jésus, notre Seigneur. N'est-ce pas? La souveraine grâce divine nous a amenés à la foi. C'est elle qui nous conduit à Jésus. C'est la grâce de Dieu. Et la foi est notre réponse. Notre réponse est cette confiance. Quand cette grâce nous touche de façon spéciale, de façon spirituelle, que ce soit dans un parcours, que ce soit dans un processus, que ce soit un moment précis où l'évangile nous a été annoncé, la grâce spirituelle, cette action spirituelle du Saint-Esprit qui nous touche au plus profond de nous-mêmes à un moment donné, lorsque nous sommes exposés soit à un témoignage d'un chrétien, soit à la prédication de l'évangile, Dieu nous fait la grâce d'y répondre par la foi, par la confiance que nous mettons dans cette parole. La justice immuable de Dieu en Jésus-Christ, voilà notre garantie. Parce que Jésus-Christ est juste, nous avons cette certitude que le privilège qui est le nôtre, que la foi qui nous a communiqué est une foi solide. Parce que lui, c'est lui le juste. À quoi sert donc le salut? Le salut, cette grâce qui nous touche, le but du salut, c'est de nous conduire à nous rendre semblables à celui qui est juste. Donc à nous rendre semblables à Christ, à Jésus, n'est-ce pas? Et nos progrès dans cette marche, dans cette confiance, nos progrès vont dépendre de notre connaissance de Jésus-Christ. Et c'est ce que nous allons voir tout au long de cette épître que l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre du moins, nous adresse. Pierre souligne que la vraie foi, la qualité de la confiance s'exprime dans la qualité d'une vie, dans la qualité d'une vie remplie de l'amour de Dieu, remplie de la bonté de Dieu. Il dit, s'il y a une connaissance de Dieu qui peut enfler, c'est-à-dire une connaissance intellectuelle, comme ces faux docteurs qu'on appelait les gnostiques, qui disaient qu'on a la connaissance et qui faisaient beaucoup de déclarations, il dit, oui, il y a une forme de connaissance qui peut enfler, ce n'est pas de celle-là qu'il parle. Il y a une autre qui sauve, celle qui est une rencontre avec le Dieu vrai, celle qui est une intimité avec le Dieu vrai, celle qui est une confiance dans les Écritures que ce véritable Dieu nous a laissées. Celle-là, elle est nécessaire. Et c'est ce qui va nous rappeler tout au long de cette épître, n'est-ce pas? Il nous dit que Dieu a fait des promesses, que ces promesses de Dieu permettent aux chrétiens de devenir participants. Participants de quoi? De la nature de Dieu. Dieu nous fait ce privilège de participer à sa nature. La nature de Dieu est une nature sans péché. La nature de Dieu est une nature... La Bible dit que Dieu est amour. Et Dieu nous fait participer de cette nature-là. Nous revêtons donc la nature même de Dieu. Chacun étant une nouvelle création. N'est-ce pas? Selon 2 Corinthiens 5, verset 17. Hein? Il dit que ce privilège vous a fait rentrer dans une dimension qui vous fait bénéficier de la nature divine. Est-ce que nous avons toujours cette conscience-là? Est-ce que nous avons toujours ce regard sur nous-mêmes, ce sentiment sur nous-mêmes que finalement, cette rencontre avec Dieu? Vous savez, ces temps-ci, pour explorer un peu comment le monde vit cette situation, pour explorer un peu comment les gens vivent cette idéologie du monde actuel, vous savez que parfois les idéologies et les façons dont le monde pense sont mises dans des films. Les films sont ce qu'étaient les théâtres, les expressions de la société de l'époque, et les films nous disent quelque chose. Et de plus en plus de films, surtout pour les jeunes, sont axés vers des super-héros. Avec toutes ces séries Marvel qui ne finissent pas de créer des super-héros, des gens qui se sentent investis d'un pouvoir particulier de sauver le monde. Et ces gens-là, en tout cas pour la grande majorité, ils participent dans cet scénario d'une nature extraordinaire, d'une nature qui les rend plus que les autres. Mais cette nature, c'est toujours une puissance. C'est toujours quelque chose de grand, de fort, de musclé pour faire quoi? Pour sauver le monde. Jésus n'est pas rentré dans le monde comme ça, n'est-ce pas? Jésus est rentré dans le monde comme un petit enfant fragile. Jésus a vécu son ministère terrestre avec cette fragilité qu'il a exposée aux injures, qu'il a exposée, il a pris des baffes, qu'il a exposée à la misère, qu'il a exposée au dénuement, qu'il a exposée à la faim. Et même le diable, lorsqu'il le tend dans Luc chapitre 4, il dit, mais tu as des pouvoirs, utilise-les. Et Jésus dit, bien sûr, je sais qui je suis. Mais je suis venu vivre cette condition humaine totalement et pleinement. Et je crois qu'il y a une leçon dans ça. La première leçon que Jésus nous donne, c'est que nous sommes des êtres humains ordinaires. Et que notre qualité de vie ne dépend pas de la puissance extraordinaire que nous pouvons dégager, ne serait-ce que dans des miracles, dans des choses extraordinaires. Je pense que l'humilité dans ce texte nous dit que la nature divine, finalement, c'est de ressembler à Adam et Ève avant la chute. Des hommes et des femmes qui obéissent et qui voient la parole de Dieu et qui laissent leur vie impactée par cette parole-là, n'est-ce pas? C'est-à-dire une vie qui davantage est semblable à Christ. Et parfois on dit, mais est-ce que c'est possible que nous ressemblons à Christ? Christ, il était homme, mais aussi il était Dieu. Donc, dit être semblable à Christ, c'est une grosse utopie. Si c'est une utopie, pourquoi les apôtres l'ont dit alors? Si ce n'est pas atteignable, pourquoi les apôtres l'ont dit alors? Ils nous auraient menti? Ils nous auraient donné un défi trop grand? Je crois que la perspective, c'est de dire, oui, nous avons cette invitation à ressembler à Jésus-Christ, mais c'est un processus. C'est dans toute notre vie, c'est dans le développement de notre vie jusqu'à son retour que nous sommes dans ce processus-là. Et que ce processus aura son terme que lorsque Christ sera de retour. Mais nous devons tendre vers, nous devons continuer à aller vers. Nous devons continuer à marcher vers. C'est pour cela qu'il enchaîne dans cette épître à partir du verset 5, il dit, c'est pour cette raison même, c'est pour cette raison même, parce que vous êtes déjà participants de la nature de Dieu, parce que vous êtes déjà des enfants de Dieu, parce que votre nature a été renouvelée en Dieu, parce que vous êtes revenus à ce que Dieu voulait pour les êtres humains, alors, pour cette raison, continuez à faire des efforts. Continuez à faire des efforts. Ce qui fait le prix infini de la foi, qu'elle soit la foi d'un apôtre ou la foi d'un petit des croyants, du plus petit des croyants, c'est qu'elle nous met en possession des trésors divins. Et que parfois, peut-être les trésors divins, dans notre compréhension, je veux dire évangélique, mais peut-être un peu plus pentecôtiste, les trésors divins, c'est des bénédictions. Et les bénédictions, on les voit toujours à l'extérieur de nous. Les bénédictions sont de l'ordre du matériel, les bénédictions sont de l'ordre de la puissance qu'on peut avoir pour servir, pour évangéliser, pour prêcher, pour faire son service à l'église. On voit toujours les bénédictions comme quelque chose d'extérieur à nous. Alors que les promesses de Dieu et les plus grandes bénédictions de Dieu, c'est ce qui transforme notre être intérieur. C'est ce qui nous change. C'est ce qui fait de nous des personnes, des hommes et des femmes renouvelés, transformés dans notre caractère, dans nos comportements, dans nos habitudes, dans nos façons de penser, dans nos façons d'agir, dans nos façons d'interagir, dans nos relations. C'est cette promesse que Dieu nous fait, de faire de nous des hommes nouveaux, des femmes nouvelles. Pour cette raison même, si nous ne voulons pas reculer, nous devons avancer. Et pour avancer, il nous donne une exhortation pour avancer. Pierre fait un peu ici, on dit Pierre fait écho dans cette façon de présenter les choses, poussé par l'Esprit bien sûr, à ce que Josué a dit au peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Dans le chapitre 18, verset 3, Josué a dit, « Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel vous a donné ?» Donc Josué dit, « Mais Dieu vous a fait une promesse. Cette promesse, c'est de vous installer sur un nouveau territoire. Cette promesse, c'est de vous accompagner même dans votre installation. Même s'il y a des dangers, même s'il y a des adversaires, même si ça va être difficile, il vous a promis qu'il sera avec vous. Jusqu'à quand allez-vous négliger la promesse de Dieu ?» Et l'apôtre Paul semble dire la même chose. Il dit, jusqu'à quand nous allons négliger que Dieu a mis en nous un trésor? Et que ce trésor, c'est que justement nos vies de chrétiens et de chrétiennes soient modélées, transformées, progressant jour après jour, mois après mois, à la ressemblance de Jésus-Christ. Il dit, je vais vous donner un indice de comment vous devez progresser. et nous donne à peu près ce qu'on appelle 7 vertus hein, dans ce texte. Hein. Il y en a 7. Et il parle de ces 7 vertus. Il dit, c'est pour cela qu'il faut ajouter à votre foi. N'est-ce pas? Et quand on lit au verset 5, hein, pour cette même raison, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère. Quand on lit ce texte, d'après les commentateurs, il ne s'agit pas d'additionner des choses. Il dit, c'est le mot qui est utilisé ici, c'est comme une chorégraphie. C'est une invitation à faire en sorte que notre vie soit comme un chant de chorale. Un chant de chorale qui est animé par plusieurs voix, mais qui donne un son harmonieux. Alors, tous ces aspects de nos vies doivent s'harmoniser pour produire un bon son, un bon fruit, un bon témoignage. Il dit, quels sont ces éléments qui doivent s'harmoniser? Et il commence à lui dire, n'est-ce pas? Il dit, c'est pour ça que nous devons ajouter à notre foi 7 qualités, quand on lit le texte d'une certaine façon. Les 5 premières qualités se ramènent à notre relation à Dieu, à notre vie intérieure et à notre relation avec Dieu. Et les 2 autres se ramènent à notre relation avec les autres. Il dit donc, ajoutez à votre foi, harmonisez votre foi, harmonisez votre confiance en Dieu avec la vertu. C'est quoi la vertu? La vertu, c'est l'excellence morale. Il dit, ayez une moralité qui vaut la peine dans un monde en perte de moralité. On a troqué dans notre société actuelle le mot moral par le mot éthique, parce que la société occidentale dit que la morale fait appel à des notions religieuses, à des notions de croyance. Et l'éthique fait appel à des notions d'égalité, d'équité, de justice. Voilà. Donc, pour les questions actuelles qui sont débattues dans notre société, il ne s'agit plus de morale, il s'agit d'éthique. Et nous, nous sommes toujours déphasés parce que finalement, l'éthique, ça veut dire qu'on se soustrait à la morale que Dieu a établie. Alors, il dit, ajoutez à votre confiance en Dieu cette excellence morale. Continuez à garder les valeurs morales que Dieu a dites dans sa parole. Marchez dans ces valeurs morales. Faites en sorte qu'elles soient toujours présentes et qu'elles soient grandissantes dans vos vies. Il dit, dans cette harmonie de la foi et de la vertu, allez encore vers la connaissance. La connaissance dont il parle ici, ce n'est pas de connaître intellectuellement la parole de Dieu, ce n'est pas nos études intellectuelles, même si elles sont utiles, n'est-ce pas? Parce qu'elles nous rappellent que Dieu est un Dieu, Dieu est le Dieu qui donne l'intelligence, bien sûr. Mais il dit, cette connaissance, c'est la connaissance de Dieu. Comment pouvons-nous connaître Dieu, mes frères? Comment pouvons-nous connaître Dieu, mes sœurs? Il me semble qu'il y a 2 façons majeures de connaître le Seigneur. Jésus dit, si vous gardez mes commandements, alors vous serez vraiment mes disciples. Et le mot garder ici, c'est apprendre la parole de Dieu, la connaître, mais plus la pratiquer. La pratiquer. Et donc cette connaissance ici, c'est de continuer à apprendre la parole de Dieu, de continuer à l'étudier, de continuer à la méditer pour que nous la connaissions en vue qu'elle se transforme en acte, en valeur, en pensée, en comportement, en caractère. C'est de ça qu'il s'agit, c'est de cette connaissance qu'il s'agit, n'est-ce pas? La foi, la vertu, la connaissance spirituelle. Il dit aller plus loin, élargissez encore cette harmonie, cette chorégraphie. Faites vos efforts dans la maîtrise de soi. Dans un monde où la violence explose, dans un monde où la violence verbale, où la violence physique, où les violences de toutes sortes explosent, l'apôtre Pierre nous rappelle qu'une des vertus que le chrétien doit cultiver, c'est la maîtrise de soi. Cette maîtrise de soi signifie que nous dominions nos passions. Hein, nos passions. Nos passions, c'est tout ce qui est en dehors de notre contrôle, n'est-ce pas? Tout ce que nous ne contrôlons pas assez bien. Tout ce qui peut nous pousser dans la tentation et dans le péché. Il nous invite donc à être maître de nous-mêmes. Quand il prend l'exemple de la colère, par exemple, il dit, oui, un chrétien, c'est un être humain. Il peut se mettre en colère, mais qu'il ne laisse pas cette colère déborder. C'est pour ça qu'il donne cette image que le soleil ne se couche pas sur ta colère. C'est-à-dire que si même il arrive des situations où tu es en colère, prends le temps de rabaisser la température. Car la colère n'est jamais bonne conseillère. pour ne prendre que cet exemple de la maîtrise de soi. C'est une discipline, n'est-ce pas, que nous devons exercer sur notre corps, sur nos passions. Et Dieu se dispose pour nous aider à cette discipline-là. Où en es-tu avec cette discipline? Où en es-tu avec... voilà, chacun de nous se connaît. On connaît les traits de caractère ou les comportements dans lesquels on n'a pas de maîtrise. D'après ce texte, Dieu a tout disposé pour que nous arrivions à être des personnes, des hommes et des femmes qui nous maîtrisions. Il faut prier pour cela. Il faut identifier les domaines dans lesquels il n'y a pas cette maîtrise et y travailler. C'est l'invitation. L'invitation de s'efforcer ici, c'est l'invitation d'y travailler avec ardeur, avec persévérance, avec insistance. Parce qu'il y va de ta santé spirituelle, mais aussi de ta santé dans tous les sens du thème. Il y va du témoignage de Dieu au travers de ta vie. Il y va du témoignage de l'Église, n'est-ce pas? Il dit à cette maîtrise, donc à la vertu, à la connaissance, à la maîtrise de soi, il faut aussi développer la patience. C'est une denrée qui commence à être très rare, la patience. Nous sommes rentrés, mais nous le constatons, que ce soit dans les couples, que ce soit dans les familles, que ce soit dans les relations parents-enfants, que ce soit dans les relations amicales, voisinage, que ce soit dans les relations professionnelles, tout de suite, on part au quart de tour. Ce n'est plus la question de la maîtrise, c'est la question de la patience. Parce que la patience présuppose que je peux supporter un certain nombre de choses. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas interagir, mais ça veut dire que ma réaction ou mon intervention ne va pas être de même ordre que celui ou celle avec laquelle je suis dans ce type de relation peut-être conflictuelle, et que ma patience va faire en sorte, comme Dieu lui-même est patient avec nous, de dire ah, ça va aller. C'est pas un ça va aller théorique, c'est je demande à Dieu de me disposer et peut-être aussi de faire des choses pour que les choses aillent mieux. Cette patience, c'est l'endurance, c'est le support. Et même dans l'épreuve, nous avons été et nous sommes encore éprouvés par cette situation, n'est-ce pas, de confinement. Nous sommes éprouvés. Nos habitudes ont changé. Nous avons vécu et nous continuons de vivre peut-être une forme de pression, une pression d'être enfermés. Nous ne sommes pas des êtres enfermés, nous sommes des êtres libres. Mais depuis quelques semaines, nous ne sommes plus aussi libres que cela. Il faut de la patience pour supporter, pour résister. Et ces choses-là peuvent avoir une influence sur notre foi, sur notre confiance en Dieu, sur notre façon de marcher avec le Seigneur, n'est-ce pas? Et nous avons besoin d'être patients. Dans l'adversité, cette patience doit aller dans une constance, dans une fermeté, dans une endurance, dans l'adversité, sans abandon ni renoncement. Et je peux vous dire que parfois il y a des combats difficiles. L'ennemi, par des idées, par des pressions, en temps de confinement, par des réflexions, par des remises en cause, vous sentez à un moment donné que votre foi est acculée, que voilà, il y a des petits doutes qui commencent à naître, il y a de grosses réflexions que vous n'avez pas avant qui sont là. Et si vous ne ressaisissez pas dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, ça peut aller très vite dans le découragement. Ça peut aller très vite dans le renoncement à certaines valeurs chrétiennes. Ça peut aller très vite dans le relâchement, dans certaines convictions chrétiennes que vous aviez. Et nous avons besoin d'être patients, d'endurer. Cette situation, nous ne savons pas pourquoi Dieu l'a laissé faire. Est-ce une condamnation? Est-ce un jugement? Est-ce une imbécilité des hommes? On n'en sait rien. Mais on sait qu'il est au contrôle. Et nous avons besoin, même si nous ne savons pas, d'être patients, de supporter, de ne pas abandonner, de ne pas renoncer à notre foi. Même si nous ne pouvons plus nous réunir pour l'instant, même si d'ici le 11 mai ou après le 11 mai, on n'aura pas cette possibilité de refaire l'église comme à nouveau, nous devons garder patience en comptant sur Dieu. Et puis, il dit à cette patience, il faut agiter la piété. La piété se rapporte à l'obligation pour l'homme de révérer Dieu. La piété ici, c'est cette attitude de l'âme tournée vers Dieu, de sorte qu'elle rapporte tout à lui seul. Et vit constamment dans sa dépendance, cherchant à lui plaire en tout. Et la piété se manifeste dans ce qu'on appelle les actes de piété, la prière, la méditation, prendre soin des œuvres de Dieu. C'est ça la piété. Où en es-tu avec ta piété? C'est une grande question. Il semble que ce temps de confinement a donné à beaucoup de personnes de développer une piété parce qu'on a eu plus de temps plus qu'avant. Il semble aussi, je ne sais pas, est-ce que vous avez fait des progrès sur ça? Est-ce que des choses qu'on n'avait pas pu mettre en place avant le confinement, vous avez pu les développer ces temps-ci? Nous, on fait la réflexion avec mon épouse, c'est vrai qu'on est toujours en train de dire on doit progresser encore. On disait qu'on n'avait pas le temps pour mettre des choses en place. Là, on a du temps et même là, on n'arrive pas à mettre des choses en place. C'est toujours compliqué cette tension du temps. Quand on n'en a pas, c'est l'argument majeur. Quand on en a, ce n'est pas toujours là. Donc, il y a un problème finalement. Il y a un problème. Et je pense que le problème n'est pas qu'on ait le temps ou pas. Le problème, c'est quelles sont nos priorités parfois. Quelles sont nos priorités? Si Dieu fait partie de nos priorités, et moi le premier, et ce matin, j'étais à genoux devant Dieu, dans mon petit bureau, Seigneur, aide-nous à reconsidérer nos priorités. À reconsidérer nos priorités. À y retravailler à nouveau. Nous ne pouvons pas dire que tu es le Dieu et tu es le seul. Et nos priorités de chrétiens, plus l'âge avance, plus la maturité avance, se relâchent. Je le dis pour moi, je ne sais pas pour vous. Les questions de préparer le culte du dimanche, finalement on est dans une habitude où est-ce que vraiment on prépare notre culte du dimanche? Je ne sais pas. Les questions de notre méditation, qu'elle soit quotidienne ou hebdomadaire, où en est-on, où en sommes-nous par rapport à cette méditation de la parole de Dieu? Les questions de temps de prière, et Dieu seul sait le combat qu'il y a. Caroline et moi, on fait ce combat avec notre famille, avec nos enfants, pour le culte de famille. C'est un vrai combat, mais dans lequel, là aussi, il faut un acte de piété, un acte de persévérance, un acte de patience pour y arriver. Là, c'est une expérience personnelle que je partage, mais c'est pas une loi. C'est pas le sabbat. Moi, il me semble que c'est pas le sabbat. Le sabbat, Jésus-Christ l'a aboli d'une certaine façon. Mais il me semble aussi que si nous sommes des croyants d'une certaine maturité, le dimanche matin doit être un temps particulier. On ne peut pas gérer, et ça je parle de la piété, dans notre façon de considérer notre piété avec Dieu, on ne peut pas considérer la nuit du samedi au dimanche comme toutes les autres nuits. Je ne pense pas. Je pense qu'on doit avoir un égard particulier parce que, en tout cas pour nous les chrétiens évangéliques depuis le 4e siècle, c'est le jour du Seigneur. Et ces jours-là, nous devons lui donner une ampleur particulière. Peut-être pas tous les dimanches matins, mais en tout cas la majorité des dimanches matins. Prendre ce temps. Une des forces de l'Église se retrouvait aussi dans cela. Cette puissance que tous les chrétiens dans le monde entier, enfin bref, mais en tout cas, que Dieu nous aide pour reconsidérer notre piété, chacun et chacune. Et moi le premier. Ensuite, il aboutit aux deux dernières vertus qu'il ajoute, qui sont des vertus, comme je l'ai dit, en relation avec les autres. Il dit donc à la vertu, à la connaissance, à la maîtrise de soi, à la patience, à la piété, continuez dans cette harmonie de votre foi à développer l'amitié fraternelle. C'est un ardent souci pratique pour les autres. L'amitié fraternelle, c'est un ardent souci pratique pour les autres. C'est cette volonté et cette manifestation de la volonté de prendre des nouvelles les uns des autres. Ne serait-ce que dans ce temps de confinement, on ne peut pas se visiter. Je l'ai toujours dit et je le dis toujours, je n'ai pas l'adresse des frères parce que je suis d'abord pasteur. Ça, c'est quelque chose que j'ai très vite établi dans l'appel que Dieu m'a donné en tant que ministre de Dieu. Je me suis très tôt engagé en disant, quelle que soit la communauté où je vais arriver, l'adresse ou le numéro de téléphone que je vais prendre des frères, ce ne sera pas d'abord parce que je suis le pasteur, mais parce que ces frères et ces sœurs sont mes frères dans le Seigneur, sont ma famille. Autant j'ai le numéro de téléphone de mes frères de sang et que je peux appeler, encourager ou avoir des nouvelles, autant je veux le faire dans la famille de Dieu. Et je pense que c'est un défi qui manifeste notre amour fraternel. Je pense, sans culpabiliser qui que ce soit, mais que trop souvent, on a laissé cet agenda, cet annuaire aux pasteurs, aux anciens. Et chacun de nous s'est un peu dédouané d'avoir le numéro de téléphone de tel ou de tel bien-aimé. Et je pense que ce n'est pas très encourageant. Dans notre progrès, dans notre amour fraternel, c'est des petits détails, mais qui comptent beaucoup. Avoir le numéro de téléphone. On ne peut pas être dans la même communauté pendant 2, 3, 4, 5 ans et ne pas avoir le contact des bien-aimés. Je pense que nous avons un travail à faire sur ce niveau-là. Parce que l'amour fraternel, c'est des choses concrètes. L'amour fraternel, c'est des choses pratiques. Nous avons la pensée des frères accueils, ça c'est bien. Mais cette pensée, si elle ne se manifeste pas, ben, notre amour fraternel, il n'est pas complet. Il est en chemin. Et nous devons progresser là aussi. Et je le dis, pas en nous culpabilisant, mais en progressant. Là, j'ai pris que l'exemple des contacts téléphoniques, mais l'amour fraternel, cet ardent souci pratique des autres, il se manifeste dans plein de domaines. Et ces derniers temps-ci, gloire à Dieu, on en a fait le bilan, le conseil et moi, et on était très contents de voir que les uns et les autres se soucient des bien-aimés. Le nombre de coups de fil qui sont passés, le nombre de SMS qui sont passés, cette période nous a donné peut-être de développer un peu mieux cet aspect. Et la question c'est, après le confinement, qu'est-ce que ça va être? Est-ce que nous allons continuer à vivre ça? C'est ça le défi. Parce que si c'est dans le confinement, est-ce qu'on aura progressé après? Et Dieu, que Dieu nous aide bien-aimés. Et il dit enfin, ajoutez à cette amitié fraternelle l'amour. On se demande, mais pourquoi il dit amour fraternel, agape, amitié fraternelle et amour? Oui, parce que les deux ne sont pas de la même nature. Il semble que quand il dit amour ici, il fait allusion à ce désir le plus grand d'avoir le bien-être des autres à cœur. Hein? L'amitié fraternelle, c'est avoir cet ardent souci pratique pour les autres. Et l'amour, c'est vraiment d'avoir ce grand désir du grand bien-être des autres. Parce que c'est ce que Dieu est. Dieu a ce grand souci de notre bien-être. Quand il dit au début de ce texte que Dieu a tout mis en œuvre pour que nous ayons tout ce qu'il nous faut pour vivre la nature divine, c'est ça l'amour fraternel, c'est ça l'amour de Dieu. Alors que cet amour, que nos cœurs soient débordants d'amour, que notre communion constante avec le Sauveur, voilà, nous fasse grandir dans cet amour les uns pour les autres. Celui qui n'aime pas, celui dont la foi n'est qu'une stérile et froideur adhésion à certains dogmes, bah, ce n'est pas la foi, ce n'est pas l'amour. N'est-ce pas que l'apôtre Paul dit quelque chose de très grave quand il parle dans 1 Corinthiens au chapitre 13? Il dit, si j'ai même la capacité de mettre mon corps au feu pour que quelqu'un d'autre soit bien et que je n'ai pas l'amour. Et on se dit, mais comment quelqu'un peut donner tous ses biens et n'est pas l'amour? Donc dans 1 Corinthiens 13, il y a comme une tension. L'amour, ce n'est pas juste les actes que nous posons pour les autres. C'est les motifs aussi de nos actes. Les motifs de nos actes. Quand je pose un acte par amour, ben, je n'attends pas de retour. Le remerciement, c'est vrai, c'est une civilité. Mais je n'attends pas que le bien-aimé me remercie. Je le pose parce que je l'aime et que je veux qu'il soit bien. S'il me remercie, tant mieux. Jésus a dit aux 10 aveux qu'il a guéris, il dit, combien sont revenus me voir? Combien sont revenus me voir? Mais il a fait pour leur bien-être, n'est-ce pas? Et que l'amour dépasse cette considération du remerciement. Parce que si on s'en tient au remerciement, ça nous démotive dans notre amour agapé. Parce que si on constate tous ceux qui n'ont pas été reconnaissants, tous ceux qui n'ont pas remercié, bah, notre amour prend un coup en ce moment-là. Parce qu'on dit c'est toujours pareil. Tu as beau t'engager, tu n'as pas de remerciement derrière. Combien de fois les gens n'ont pas dit merci à Dieu, alors que c'est Dieu qui agit dans le monde? Combien de non-croyants pensent que c'est de leur propre force, ou c'est la nature, ou c'est la chance, alors que c'est Dieu, et qu'ils ne le remercient pas? Mais est-ce pour autant que Dieu continue de ne pas aimer? Non, la Bible dit qu'il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Son amour est toujours en action, malgré l'ingratitude, malgré la non-reconnaissance. Que Dieu nous aide. Notre amour doit être de cette nature-là. Nous devons progresser dans cet amour pareil. Et puis finalement, ah Jésus, que tu nous conduises. Nous voulons grandir avec toi, nous voulons croître, nous voulons progresser, n'est-ce pas? L'apôtre Paul dit, si nous avons l'apôtre Pierre du moins, l'apôtre Pierre dit, si nous avons toutes ces choses, si nous les développons, si nous marchons dans ces choses, si nous les construisons de façon consciente, il dit alors, nous sommes dans le vrai. Alors cela démontre que nous sommes vraiment sauvés et que nous sommes dans le bon sens et que le royaume des cieux est grand ouvert pour nous. Il dit par contre, si ces choses manquent ou si ces choses ne sont pas en progrès dans votre vie, si ces choses sont en régression dans votre vie, l'apôtre Pierre dit, attention, c'est qu'il y a un vrai souci. Il y a un vrai souci. Il dit, en ce moment-là, asseyez-vous et révisitez votre engagement avec Dieu. Révisitez votre engagement avec Dieu. Le titre, c'est « Veillez contre le relâchement de la foi et contre la diminution de votre zèle. » Comment vous pouvez veiller? C'est de vérifier que ces choses sont en progrès ou en régression, ou stagnant. Si elles progressent, gloire à Dieu, continuez vos progrès. Si elles stagnent, relevez-vous, réveillez-vous. Si elles régressent, attention, danger. Attention, danger. Que Dieu donc nous aide ensemble, bien-aimés. Je veux conclure en nous invitant à redire ce qu'il dit au verset 8. Car si vous possédez ces qualités, et si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Je répète, je reprends, je relis le verset 8. Car si vous possédez ces qualités, et si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Pour ne pas reculer, mais pour avancer. Pour ne pas reculer, mais pour avancer. Que Dieu nous aide à joindre à notre confiance, à notre foi, la bonne conduite. À joindre à notre confiance, la vraie connaissance de Dieu. À joindre à notre confiance, la maîtrise de soi. À joindre à notre confiance, la persévérance. À joindre à notre confiance, l'attachement à Dieu. À joindre à notre confiance, l'affection fraternelle. À joindre à notre foi, l'amour. Je vous invite à la prière. Seigneur, je veux te bénir parce que tu es le Dieu qui parle. Ta parole, la Bible est la vérité. C'est elle qui ne nous laisse pas, mais qui nous exhorte, qui nous encourage, qui nous corrige et qui nous relève lorsque nous sommes tombés. Je veux te bénir parce que je sais que cette parole est à propos pour moi en premier. Et je le sais, et tu le sais aussi, avec cette semaine particulière avec toi. Et je pense que plusieurs bien-aimés, que ce soit dans cette église de Créteil ou ailleurs, traversent aussi cette période avec assez de tension. Mais ce texte est là pour nous dire, ne relâchez pas. Ce texte est là pour nous dire, veillez. Ce texte est là pour nous dire, redoublez d'efforts. Ce texte est là pour nous dire, gardez votre zèle, progressez. Si ces choses, si ces qualités sont en vous et qu'elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs. C'est ma prière pour mes bien-aimés, pour cette église et pour ton église tout entière. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse ensemble. Je laisse la parole à nouveau à Eric pour la suite du culte.